Bonjour à tous et bienvenue à ce 9e épisode de la saison 2 du podcast À la coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. On n'oublie pas, on pense à la Montminou à la coupe. Je vous invite comme toujours à nous rejoindre sur nos différentes plateformes. Vous savez, on est actifs de différentes manières sur différentes plateformes, entre autres sur Twitter, sur TikTok, bien entendu sur Facebook, mais aussi sur YouTube, Spotify. Bref, on est rejoignable un peu partout, toujours avec le même nom, À la coupe, c'est pas dur à retenir. Et également, je vous invite à écouter à tous les mardis midi, Loric Salvaille et toute son équipe qui vous font la notif des sportifs où on passe en revue différentes actualités au niveau de la LNH et entre autres, un coin des rumeurs. Ça, c'est à suivre. Alors aujourd'hui, j'essaye quelque chose avec vous. Je vous propose la question qui va être la question suivante. D'après vous, est-ce que la reconstruction des Canucks peut être considérée comme étant un échec? Mais pour en parler, on va y aller avec notre collaborateur Sam. Sam, comment ça va, mon ami?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, mon cher. Écoute, Team Like That, on se rappelle, Drew Doughty, qui avait eu un ton un peu condescendant à l'égard de l'organisation des Canucks de Vancouver, mais c'est pas vargeux cette année. Je sais pas pour toi, mais comment tu voyais la saison avant le début de la saison des Canucks pour cette année?
J'avais des grosses attentes. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient contenders, je m'attendais au moins qu'ils battent les séries. Leur début de saison était catastrophique. Puis en plus, les Canucks, c'est ma deuxième équipe favorite. Fait que, ça va pas vraiment bien cette année si tu te poses la question dans mes équipes. Mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu du début de saison. Mais bon. Ils sont replacés un peu, là, mais ça reste que c'est pas vargeux, comme tu dis.
Non, puis il avait fait un move qui est un move assez intéressant. Peut-être que toi, tu le connais un peu plus que moi. Un certain, je pense que c'est Kuzmenko ou quelque chose comme ça, qui a été signé de la KHL, mais il y avait beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à ce gars-là. Puis les Canucks ont réussi à mettre la main dessus. Puis si je me fais à ses stats, ça a l'air d'être possible.
Non, oui, il s'adapte super bien au hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Mais c'est pas lui le problème, mais... Du côté des Canucks, le problème, c'est la défensive. L'échange d'Ekman Larson va faire mal longtemps parce que son salaire va être gros, son hockey diminue. Là. Il est encore bon, là, mais c'est pas un défenseur de ce calibre au salaire qui est payé. Il joue pas comme au salaire. Fait que sérieusement, j'ai hâte de voir, mais à part Ekman Larson puis Quinn Hughes, effectivement, Quinn Hughes, une chance qu'il est là parce que sinon... Les défenseurs, hein, c'est sérieusement, j'ai jamais vu. Je pense que c'est une des pires défensives de la ligue.
Puis, ça ressemble à ça, oui.
Non, mais. Puis j'ai regardé celle-là des Coyotes. Là,
puis, mon Dieu! Là, tu viens de me faire un compliment.
Je trouve que les Coyotes sont plus dynamiques défensivement. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais quand je regarde les Canucks, je dis, il n'y a pas de relance. Quand Quinn Hughes n'est pas sur le jeu, il n'y a rien qui se passe. Puis Ekman Larson, il est vraiment lent. Tyler Myers, il est lent. Ils ont Ethan Bear qui est arrivé dernièrement, qui n'est pas si mais Ethan Bear, c'est pas le sauveur. Ça prendrait, tu sais, ils ont repêché Oli Olivi qui a été un flop total.
Oui, c'est vrai.
Lui, il joue encore à Fortnite, je pense. Sérieusement, c'est plate, mais là, il faut qu'ils se mettent là-dessus parce que leur attaque est vraiment dynamique, puis ils ont des bons jeunes, mais il manque la défensive. Tu peux pas gagner ça si t'as pas de défensive, puis ils ont un excellent gardien de but. Fait qu'il manque vraiment juste ça à peaufiner. Mais c'est parce que là, ils peuvent pas échanger trop de joueurs à l'attaque parce que sinon, c'est l'attaque qui va devenir le problème. Mais je sais pas, c'est le nouveau DG Patrick Alvin qui a un bon contrat. Pas un contrat, mais un bon défi pour les Canucks dans les prochains. Puis avec, je pense, une Québécoise aussi qui est assistante DG, Castonguay, je pense.
Dret ça.
Ils ont un bon défi sous la main.
Mais là, avant de rentrer dans les détails de chacun des joueurs, tu sais, de manière générale, l'organisation des Canucks devait théoriquement avoir une bonne saison cette année. C'est clairement pas ce qu'on voit. On peut toujours parler de blessures, de mauvais vibes et de tout ça, mais tu sais, au final, c'est une organisation que ça fait plusieurs années qu'on parle que « Oh, mais c'est pas le bon timing, c'est pas le bon ci, c'est pas le bon ça. » Et puis là, on commence à parler de faire des transactions de joueurs qui sont des joueurs importants au sein de l'organisation et ça, c'est jamais vraiment un bon signe. Et d'où pourquoi j'avais eu l'idée de la question. Est-ce qu'on peut mentionner que c'est une reconstruction qui est un échec? Avant de rentrer dans cette réponse-là, on va passer au travers de plusieurs sujets et bien entendu, on va commencer avec Brock Bowser. Brock Bowser, comme on le sait très bien, on l'a entendu dans les rumeurs, le Canadien de Montréal a déjà montré de l'intérêt à l'égard de ce joueur-là. Je pense que ça fait quelques années, à l'époque de Marc Bergevin. Bon, là, des suites à le gars, il a continué à jouer avec les Canucks. Et puis là, aujourd'hui, on parle qu'il serait peut-être disponible. Puis il y a un gars, là, je vais essayer de retrouver son nom tranquillement tantôt, qui a mentionné que le Canadien pourrait être encore intéressé à Brock Bowser. Comment toi, tu files Brock Bowser comme style de joueur?
J'adore Brock Bowser. J'ai un gilet des Canucks. J'ai deux gilets des Canucks. Il y en a un qui c'est Brock Bowser. Un autre joueur qui va partir, que j'ai son nom, son numéro. Mais je l'adore. C'est pas le meilleur joueur de l'équipe. C'est un buteur. C'est un franc-tireur. Le gars score des buts. Le gars, c'est sûr que c'est pas le meilleur défensivement dans sa zone et tout. Mais c'est un très bon joueur de hockey. Puis lui, il était sorti des collèges américains, si je me rappelle bien. Là, il était pas... c'était pas un top prospect qu'on attendait tant que ça. Puis finalement, il est arrivé très jeune quand même des Canucks. Puis il a performé tout de suite. Puis c'est sûr que ça va un peu moins bien ces temps-ci, cette année. Je pense que Bruce Boudreau puis lui, ça marche pas vraiment. Parce que c'est le nouveau DG qui a donné un contrat en plus de 3 ans. Son première année. Il était à sa première année de son contrat de 3 ans. Puis là, on parle déjà d'échange. Alors, il s'est passé quelque chose avec Brock Bowser. Je sais pas si son attitude, j'en ai aucune idée. Là. Je suis pas dans le vestiaire, j'ai aucune information, mais. C'est passé de quoi avec Brock Bowser? Soit que les Canucks sont vraiment plus intéressés, ou soit que c'est passé de quoi dans le vestiaire, ou whatever. Ou c'est le coach, là, mais c'est passé de quoi? Parce que tu peux pas donner un contrat de 3 ans à un gars que tu veux échanger à l'année 1. En tout cas, je
trouve ça. Oui, c'est assez particulier. Je veux juste mentionner le gars que je dis, c'est John Matiz. Je sais pas comment prononcer son nom, ça se passe. Ça se termine avec un S et un Z. Il travaille pour le média The Scores. Okay. Puis, c'est un média que tu peux. En tout cas, il est payant un peu. Moi, je ne le connaissais pas avant. Bref, je le connais. Puis lui, dans le fond, ce qu'il mentionne, c'est que bon, les difficultés, je dirais, de tu prononces Bowser? Bowser?
Moi, je dis Brock Bowser, mais je ne sais pas si c'est quoi la vraie prononciation. Là. C'est bizarre comme prononciation. Tu sais, c'est genre un joueur, il y a plein de joueurs dans le monde national, tu dis, hey, c'est-tu le même que ça se prononce? Ouais. Moi, je dis Brock Bowser, mais je ne sais pas si c'est le même que ça se dit.
OK, on va dire Brock Bowser. Moi, ce que j'ai lu, c'est le fait qu'il y a vraiment des grandes lacunes au niveau du 5 contre 5. Donc, c'est un gars qui est utile au niveau de l'avantage numérique, mais que son style de jeu défensif est catastrophique. À moins 14 actuellement, c'est le pire de son organisation. Et pourtant, le gars, moi, quand je regarde, il joue sur une troisième ligne. Puis, tu sais, on s'entend, il joue genre avec Connor Garland et Sheldon Dries, que je ne sais pas c'est qui. Je pense pas que ça soit de baisse pour produire. Puis pourtant, il y a quand même quelque chose de respectable. Là, on parle de 16 points en 22 matchs, pas catastrophique.
Puis on parle, quand tu parles de sa ligne, là, Connor Garland, c'est pas le joueur le plus défensif non plus.
Hey boy, non, 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 non.
L'action sur la glace, il est mieux de mettre sa première paire de défense parce que si bon, tu vas avoir des, si un revirement, c'est pas trop long, ça va faire mal. Mais Sheldon Dries, encore là, c'est un ancien joueur de l'Avalanche, je me rappelle bien. Puis il jouait sur la quatrième ligne avec l'Avalanche. Déjà là, lui, il est pas dans la bonne chaise comme troisième centre. Puis j'ai regardé les Canucks, il y a des, il y a des joueurs que j'ai jamais entendu parler, puis je me dis, mais ils n'ont pas de profondeur, les Canucks. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, je ne sais pas si Tanner Pearson est blessé ou il est-tu encore là. Il me semble lui, c'était un bon joueur de profondeur, mais on dirait que je ne l'ai pas vu cette année. Je ne sais pas s'il est blessé, ça m'a complètement sorti de la tête. Là. Mais lui, je pense que si lui, ils l'ont échangé ou il est blessé, je pense que c'est une lourde perte pour les Canucks parce que c'était leur gars de désavantage numérique, c'est leur gars défensif. Mais sinon, les Canucks, le bottom six qu'on appelle, là, c'est Connor Garland, il est excellent offensivement, mais de l'autre côté de la patinoire, Brock Bowser puis lui, je pense pas que c'est des joueurs qui sont prêts à jouer défensif puis jouer de l'autre côté. Fait que si t'es mis ensemble, on dirait que ça marchera encore moins. Je sais pas si tu penses comme moi.
Oh, c'est deux gars qui sont pas responsables du tout dans leur zone. Pour te compléter, le Tanner Pearson, effectivement, il est sur la liste des blessés en ce moment.
Non, voilà.
T'as quelques noms, dis Giuseppe qui est Travis Dermott, Tucker Pullman, puis bien entendu, Thatcher Demko sur la liste des blessés. Tu sais, on va retourner toujours avec, pour ce qui est de Bowser, Brock Bowser. Moi, en tant que tel, tu sais, le gars, je pense qu'on sait ce qu'on peut s'attendre de lui. On sait que c'est un gars qui est capable de compter des buts. C'est pas le plus grand des playmakers. Mais alors, c'est pour moi qu'il peut apporter quelque chose qui pourrait être quelque chose de pertinent pour une organisation. Puis, on semble croire qu'on ne demandera pas nécessairement beaucoup en retour. Donc, toujours selon John Matiz de The Scores, lui, il mentionne que le retour pourrait être même un choix de deuxième ou un choix de troisième ronde. Est-ce que ça peut valoir la peine pour une organisation comme le Canadien? Ah, vas-y.
Mais si tu me dis que ça vaut aussi un choix de deuxième ronde, moi j'embarque. Là. Je veux dire, je suis un égide national, mais c'est parce que ça prend l'espace à la masse salariale. Choix de deuxième ronde, tu rentres 6 millions,
6,650 000.
Je savais que c'est 6 points quelque, mais 6,6 puis tu sors à rien. Les Canucks, eux autres, ils veulent clairement libérer le 6,6 pour la masse. Mais là, l'autre équipe qui va aller chercher Bezer va sûrement vouloir libérer un gros contrat. Est-ce que les Canucks vont vouloir le prendre? Genre, peut-être que les Canucks vont dire « Je te prends un choix de 3, mais je te prends rien. » Tu sais, tu donnes un choix de 3, ouais. C'est pour se débarrasser de Bezer. Mais moi, je trouve que se débarrasser de Bezer, quand tu as une équipe qui est moindrement compétitive, je comprends pas le move. Mais en même temps, s'il y a de quoi dans l'organisation, puis il y a de quoi sur Brock Bezer qui est arrivé qu'on sait pas. Moi, c'est dur des fois en tant que fan de hockey de dire des choses alors qu'on sait pas toute l'histoire. Mais j'ai sérieusement, Brock Bezer, moi je pense que tu peux t'attendre à 25 buts, 50 points. Je pense que ça, tu te trompes pas. Ça peut être un excellent joueur de troisième trio dans une équipe qui est contender à Coupe Stanley ou un bon joueur de deuxième trio pour une équipe qui est moindrement, mettons, dans le mid-ranking de la Ligue nationale. Mais comme je te dis, moi je l'aime beaucoup. Puis je pense que le Canadien, s'il peut donner un choix de troisième ronde, peut aller chercher, mais ça ne marchera pas sur la masse. Là. Fait qu'il va falloir qu'il donne peut-être un Joel Armia, je ne sais pas. Sont-ils intéressés à un Joel Armia?
La prochaine information que je vais détenir va être la suivante. Selon, là, je ne me rappelle pas c'était qui, là, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait mentionné que... Attends, je vais te trouver le nom précis, là, parce que des demi-mesures, j'aime pas ça. Rick Dhaliwal.
Je ne connais pas non plus.
OK, lui, je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas d'où il vient. Mais en tout cas, bref, selon Rick Dhaliwal, il dit « Le style de joueur qui pourrait intéresser les Canucks, ce serait un joueur comme Sean Monahan. » Et là, on s'entend, là, ce que je vais te dire ici, ce n'est pas une source. C'est Michel Therrien qui a mentionné que selon son feeling, Sean Monahan pourrait être tenté de tester le marché. Alors, à ce moment-là, Sean Monahan, on parle d'un gars de 6,3. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour les Canucks de s'essayer avec Sean Monahan?
Mais ça dépend. C'est sûr que... Aller chercher un joueur qui est joueur autonome sans compensation, c'est un peu risqué parce que, tu sais, si tu vas chercher le gars puis il signe ailleurs après, l'échange est gâché. Fait que là, si tu me dis que Sean Monahan serait intéressé à tester le marché, je pense que les Canucks, c'est pas très invitant.
C'est un feeling de Michel Therrien.
Ouais, mais moi, je pense que c'est un bon feeling parce qu'il y a quand même une très bonne saison. Okay. Le gars était blessé les dernières années, là, c'est un excellent joueur de hockey. Mais. Blague à part, moi, je pense que le Canadien devrait regarder. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais s'il veut tester le joueur, ça dépend ce que le Canadien y offre aussi. Là, mais s'il pense qu'il peut aller chercher plus ailleurs, moi, je pense qu'il peut aller chercher plus ailleurs parce que souvent, tu peux aller chercher plus ailleurs. Le 1er juillet, c'est tout le temps une date où que les erreurs se font plus que qu'il y a autre chose, moins une surenchère. Fait que, oui, ça pourrait être un bon échange, sauf que s'il veut tester, c'est là que ça va jouer. S'il signe un contrat avec les Canucks à long terme avec l'échange, parfait. Sauf que moi, je verrais chez Monahan avec les Canucks, c'est sûr. Ça serait un bon fit. Mais est-ce que lui veut, peut-être? Il a joué dans l'Ouest canadien pendant toutes ces années à Calgary. Il s'en va dans l'Ouest canadien avec les Canucks. Ça pourrait. Mais est-ce que le gars, je pense qu'il se plaît beaucoup à Montréal aussi. Je ne sais pas ce que Sean Monahan, c'est un dossier qui va être à suivre dans les prochains mois. Puis ça va être un gros dossier, tant que du côté du Canadien ou que les autres équipes, parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes intéressées à ce joueur de centre-là.
Mais là, il y a un petit quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que jamais au grand jamais, il a été mentionné que les Canucks, vraiment, ils veulent avoir Sean Monahan.
Non, c'est ça.
Ça veut dire que ça se pourrait que ce soit une transaction où les Canadiens vont un peu comme payer pour pouvoir avoir Bowser. Donc, tu sais, OK, Sean Monahan, mais assurément un choix de deux ou peut-être un choix tardif de première. Est-ce qu'on pourrait aller chercher à ce moment-là les Canucks en leur disant, ben oui, il n'est peut-être pas signé à long terme, mais je te donne un peu plus pour le risque que tu prends?
Peut-être, mais moi, je trouve que le fit avec les Canadiens, c'est pas le meilleur, je trouve. Je trouve que c'est pas le meilleur parce que Brock Bezer, c'est un franc-tireur, puis tu as déjà des Mike Hoffman, tu as déjà un Cole Caulfield qui est là, c'est l'avantage numérique. Mike Hoffman, tu ne mets pas sur l'avantage numérique, il ne sert à rien dans une équipe. Fait qu'au moins mets-le là. T'sais, ça dépend ce que le Canadien voit de lui, mais moi je trouve que c'est pas le meilleur fit pour le Canadien d'aller chercher un gars à 6,6 millions quand tu as déjà des Caulfield qui est un des meilleurs francs-tireurs, on le voit cette année. Puis Mike Hoffman, qui est quand même un bon franc-tireur aussi, même si c'est pas le meilleur joueur, là, il a quand même un méchant bon shot. 6,6 millions, il faut y penser. Là.
Mais, rien ne te dit qu'un gars comme Hoffman, comme Dadonov, est dans les plans du Canadien à long terme, tandis que lui est signé pour les deux prochaines années. Excuse.
Mais Hoffman est signé aussi pour l'autre année d'après. Fait à moins que Hoffman soit parti de la transaction, mais ça me surprendrait des Canucks aller chercher. Oh.
Moi, je ne penserais pas, moi non plus. Ça me surprendrait bien gros, moi et tout.
Ouais.
Fait que bref, pour toi, Bowser, c'est pas vraiment un bon fit pour l'organisation du Canadien, mais un choix de deuxième ou troisième.
C'est pas le meilleur. Moi, je le verrais pas là en premier, mettons. Je verrais qu'une équipe qui manque un buteur, puis surtout avec le salaire qui est payé, je pense que le Canadien est vraiment serré sa masse. Je pense pas que c'est le meilleur fit, mais si le Canadien va le chercher, puis contre un choix de 3, c'est excellent. Sauf que, anyway, il faut falloir que ça bouge à quelque part. Il faut qu'un joueur parte, c'est sûr. Fait que je sais pas, mais. Ça serait pas le meilleur fit pour moi. Mais si ça se fait, c'est un plus. C'est Brock Besson dans ton équipe, t'es pas déçu.
All right. Ben moi, de mon côté, je pense que ce serait un excellent fit parce que le gars, il fait à peu près en termes d'âge. Il est signé encore pour plusieurs années.
Il rentre dans son prime. Là. Il va avoir 26 ans au mois de février. Un prime, c'est entre 26 et 30. Fait qu'il arrive là.
Exactement. Puis, tu sais, au niveau de notre avantage numérique, là, une deuxième vague, ça serait pas mauvais. Là. Fait que bref, je pense que c'est un gars qui pourrait rendre la fête. Vas-y.
Puis il y a plein de gens qui viennent jouer à Montréal, mettons, ils viendraient à Montréal, ça redonne le goût de jouer avec la passion des fans, la ville qui est hockey. Tu sais, présentement, là, Sean Monahan, il découvre ça, lui-là. Tu sais, oui, c'est vrai que Calgary, c'était pas la pire place pour jouer au hockey. Mais mettons, un joueur qui arrive d'un marché qui est plus petit, qui arrive à Montréal, c'est sûr qu'il est aux anges. C'est la meilleure place pour jouer au hockey quand ça va bien. La pire qu'à ce moment, mais bon.
le point que moi, je vais apporter en lien avec ça, tu sais, ça va être surtout aussi quand tu es rendu dans ton équipe que tu te fais utiliser sur un troisième trio, ça peut être humiliant pour toi. Fait que le fait qu'on te fasse confiance puis qu'on te fasse jouer sur un deuxième exemple, ça peut peut-être l'aider à relancer. Puis comme tu dis, il est dans son prime. Fait que le gars, il a encore de très, très belles années.
Mais la fin de la troisième ligne, moi, je pense à un petit rapport avec Bruce Boudreau qui n'est pas le coach le plus compréhensif sur Terre, je pense.
Non. All right, bon, ben écoute, de ton côté, c'est pas un fit. Pour moi, c'est un fit. Maintenant, ben, on va se lancer dans une analyse peut-être un petit peu plus approfondie parce que dans les dernières années, les Canucks ont fait des moves qui n'ont pas nécessairement toujours été à leur avantage. Moi, je parle avec des gens puis je vois que des gars comme Troy Stacher qu'on a perdu pour rien ou Tanev, c'est des gars qui étaient stables, qui coûtaient pas trop cher, qui jouaient dans leur zone. Puis là, ben, Jacob Markstrom, sans Demko, on n'a plus rien en arrière de lui. Là.
Ouais. Mais. Troy Stacher, je sais pas, je pense qu'il en dit des Coyotes, ça se peut-tu? Je sais pas si tu as regardé, vu jouer, mais c'est un excellent défenseur pour ce qu'il donne, pour ce qu'il peut donner.
Il est stable, il est quand même bien dans sa zone, puis il coûte pas cher.
Très mobile. Ouais. En tout cas, mais oui, les Canucks, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont laissé passer des joueurs. Puis là, c'est sûr que tu m'as parlé d'Alex Desi tantôt, Tucker Pullman, puis Travis Dermott. Ouais. Quand ces gars-là, ça fait mal, ça prouve à quel point ta défensive est mauvaise. Parce que ce n'est pas des défenseurs qui sont supposés être là pour sauver ta défensive. C'est des défenseurs qui sont 5-6e. C'est Dermott, les Leafs en ont débarrassé puis ils n'ont pas de défensive. Fait que, ça te donne une idée.
Puis Tanev, je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en fais. Je l'aime bien.
Tanev, sérieusement, là, c'est un des meilleurs défenseurs des Flames présentement. C'est pas le meilleur défenseur offensif. Mais un défenseur, c'est pas juste l'offense, c'est la défense. Puis le gars en piqué, là, je sais que malheureusement, il a reçu un tir dans sa tête, là, puis j'espère qu'il va être correct. Mais le gars, il a un bon coup de patin, il bloque des lancers, il a une bonne première passe. C'est ça qu'ils ont vu d'un défenseur, puis ils l'ont laissé aller comme. Moi, ça m'a vraiment fait chier, là, parce que vu que j'aime les Canucks, je voulais pas le voir qu'il part. Puis là, on se retrouve avec des joueurs comme Tyler Myers qui t'sais. Il y a un attaquant mobile qui arrive, puis il doit poigner la grippe tellement qu'il a passé vite à côté de lui.
Tyler Myers, c'est pas un joueur qui est un marchand de vitesse, puis il est gros. En gros, c'est un gros bonhomme. Mais ouais. Sinon, moi, j'ai pas écouté des tonnes de matchs des Canucks dans les dernières années. Mais Tanev était un défenseur que j'aimais beaucoup au niveau de l'organisation, puis j'ai été vraiment très déçu de voir qu'on n'a pas cherché à le garder. Je sais pas exactement c'était quoi le plan. Est-ce qu'on pensait qu'on allait avoir des jeunes qui allaient pousser, on signait quelqu'un, je sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a comme pas eu de backup à cette perte-là, et déjà que c'était pas la meilleure défensive, ça va pas en s'améliorant là, vers où on s'en va. Peut-être qu'on pensait qu'Ekman Larson serait plus solide, je sais pas.
C'est pas le cas, malheureusement.
Bon, il y a un coup de patin fluide, mais dans sa zone, n'est pas varié.
Mais les Canucks sont pris avec des contrats quand même lourds, puis à long terme. Puis là, je sais que tu vas me parler sûrement de Bo Horvat dans pas long, mais tu sais, de Brock Besser, qui lui, ils vont peut-être se débarrasser, mais Brock Besser, tu t'en débarrasses, tu le remplaces pas. Là. Fait que là, t'as un trou là. Là, si Boervat s'en va, c'est parce que là, tu retombes en construction, si je comprends bien. Avec Edman Larson qui est signé encore pour des années. Avec Quinn Hughes, je pense qu'il a signé son contrat. Demko qui a signé son contrat. Peterson, je pense qu'il a signé son. Tu peux pas être en reconstruction avec genre 8 gars qui sont payés pour 6 ans. Hein, je comprends vraiment pas ce qui se passe avec les Canucks. Hein.
Puis là, ben écoute, en tant que fan des Canucks, je suis obligé de faire ta prière pour toi parce que j'ai l'impression que le scénario qu'on avait de Luongo qui était trop payé, pas échangeable, ben Ekman Larson risque d'avoir quelque chose de similaire parce qu'il y a une clause de non-mouvement. Il veut bouger partout. Ça devient touché. À l'époque où il était avec les Coyotes, il acceptait une transaction à Vancouver ou Boston.
C'est exactement ça. Fait que là, il reste Boston. Boston, ils vont pas parce qu'ils sont pleins de. Sont remplis de. Anyway, ils veulent pas aller chercher avec Ekman Larson. Ça va déjà assez bien de même. Mais anyway, Boston n'irait jamais chercher avec Ekman Larson parce qu'ils ont Hampus Lindholm et Charlie McAvoy qui ont des gros contrats quand même, mais qui font super bien la job. Fait que pourquoi ils cherchaient ça? Mais les Canucks, je pense que la transaction de Ekman Larson, ça va leur faire mal pendant longtemps. Heureusement, ils ont eu Connor Garland dans l'échange qui est quand même un bon joueur offensif, qui est quand même capable de faire un 40, 45, 50 points peut-être sur une troisième ligne. Mais ça reste que le contrat d'Ekman Larson va être lourd et lourd longtemps.
Puis Garland, il est dérangeant aussi. Là. Il a un petit côté fatigant.
Ouais, j'ai entendu des histoires dans quelques jeux pour les Wildcats de Moncton. Ça a l'air que c'est un petit tabarnouche.
Il dit des mauvaises choses. Mais sinon, je veux te ramener aussi sur la situation des gardiens de but. Parce que là, en ce moment, on a Thatcher Demko qui est blessé. Puis ça, c'est catastrophique pour l'organisation. Après ça, on tombe avec Dalia et Spencer Martin. Dans les deux cas, c'est des gardiens qui sont dans les 800.
Colin Dalia, il était avec les Blackhawks l'année passée. Ouais. Ça a été exécrable comme expérience comme deuxième gardien. Fait que là, il est allé dans l'Américaine. Là, ils l'ont monté parce que Demko est blessé. Spencer Martin, je pense qu'il pourrait être un bon deuxième dans le National, sans plus. Là, il est là parce que là, il remplace le gardien numéro un, mais il est encore jeune, je pense. J'ai pas tout son âge et tout, là, mais il n'y avait pas Michael DiPietro qui était dans l'organisation avant.
Oui, je ne sais pas s'il est encore là, par exemple.
Non, il avait joué Team Canada Junior, mais là, s'il n'est pas monté et il n'est pas deuxième, d'après moi, il est soit blessé ou soit il est parti. Je ne sais pas s'il y a des espoirs pour les Canucks dans les buts. Là. Je ne connais pas le prospect pool par cœur. Mais même là, c'est Demko, c'est parce qu'il joue tellement souvent. Il joue beaucoup de matchs. Puis c'est un gardien de but qui est dur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il est dur sur lui-même. Là, je veux dire, c'est comme un peu un Carey Price. Là. Beaucoup de mouvements, mais c'est un gros bonhomme. Fait que, tu sais, un gros bonhomme, ça prend plus d'effort à tasser qu'un gardien qui est plus flexible et qui est plus agile. Puis Demko, c'est ça, mais c'est parce qu'un gardien qui gagne 60 games par année, c'est presque impossible rendu. Ou ce qu'on est rendu dans le nouveau hockey, là, c'est 50 matchs maximum pour un gardien numéro 1, selon moi. Parce que rendu en série, soit qu'il va se blesser ou soit qu'il n'y aura plus d'énergie. Tu sais, Vasilevski, je me demande comment il fait là, présentement. Parce que tu regarderas les autres équipes, là, sont presque toutes 50-50 avec leur gardien de but. Puis je pense que ça, c'est la bonne méthode. Mais là, vous voyez, là, Demko est blessé. Les Canucks, je ne sais pas comment. Je pense que c'est pas si pire que ça comme blessure. Il va être de retour bientôt, mais c'est parce que il faut que tu aies un bon deuxième gardien de but.
C'est 6 semaines, je fais pas erreur.
Ah oui, c'est 6 semaines. C'est plus long que prévu. Mais j'ai vu qu'il est comme à 5 points des séries des Canucks. Mais c'est parce que si t'as pas ton gardien de but pendant 6 semaines, puis là, si t'as chance Brock Besser, je sais pas. J'aimerais ça entendre une conférence de presse du DG pour voir c'est quoi son plan.
Mais oui, je pense que t'es pas le seul d'ailleurs. Mais c'est pas tellement clair. J'ai parlé avec des fans des Canucks, puis ils sont comme ça fait 10 ans qu'on est en reconstruction, puis on bouge jamais à la fin.
Ben, depuis la finale de Coupe Stanley contre les Bruins, il y a pas vraiment une très bonne saison après. Là.
Dans le cas de Thatcher Demko, on parle de 15 matchs, 3.93, 888. On n'avait pas une saison excellente quand même.
Non, vraiment pas non plus.
Fait que tu sais, je sais pas, il n'y a comme pas de soleil au bout du tunnel, puis c'est quelque chose qui fait excessivement peur. Et puis là, ben, c'est là où on tombe dans le, selon moi, le gros morceau, c'est qu'on a refusé une extension du côté de Captain Bo Horvat. Et là, on avait mis l'argent sur la table, parce que j'ai compris, on parlait de, je sais pas, là, 7 ou 8 millions peut-être là, dans ces eaux-là. Écoute, est-ce que, ben déjà, Bo Horvat qui veut partir, c'est ton capitaine, ça signifie quoi pour une organisation qui voulait reconstruire en entour de ce gars-là?
Ben, ça signifie un échec monumental, parce que c'est ton capitaine, c'est ton meilleur joueur cette année, il a une excellente saison, en plus, là, il a choisi sa saison pour avoir sa meilleure à son année de contrat, Mais le fait qu'il ait refusé une offre, ça veut dire qu'il ne veut pas être avec les Canucks. Il veut tester, puis il va avoir plus que 8 millions sûrement, parce que ça va être un joueur autonome. C'est un centre numéro 1 dans la Ligue nationale. C'est un gars qui va faire quoi, 30-35 buts cette année. Le gars est capable de jouer défensivement. Premièrement, c'est ça, j'ai dit, c'est un centre. Fait que déjà là, les mises en jeu, le jeu défensif. Bo Horvat, c'est un joueur complet. Puis s'il est capable de faire 30-35 buts en plus, ça va coûter cher. Je ne sais pas quelle équipe va être capable de mettre la main dessus, parce que ça commence à être serré sur le plafond pour pas mal d'équipes. Mais je sais que les Blue Jackets sont très intéressés à ces services. Il y a des rumeurs de transactions, mais là, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils demandent? Je ne sais pas ce qu'ils demandent les Canucks, parce que les joueurs autonomes. Un joueur autonome, tu ne donnes pas trop techniquement, parce que le gars, tu peux l'avoir gratuit à la fin de l'année. J'ai hâte de voir, mais les Canucks, ils ne peuvent pas laisser partir pour rien. Ils ne peuvent pas perdre ce joueur-là pour rien.
Non, puis là, tu sais, tu parles qu'il y a une bonne saison, on parle de 25 points en 27 matchs, là. C'est près d'un point par match quand même, le gars, puis c'est un joueur qui est responsable dans sa zone, qui patine beaucoup entre les deux zones. C'est un gars qui est hyper sérieux, je sais pas, man, c'est un bel exemple pour tout le monde. J'ai de la misère à concevoir qu'on accepte de le laisser partir, mais rendu là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de l'organisation, peut-être au deuxième étage qui marche pas, là.
Ah, oh, ben lui, c'est clairement, il est. Tu sais, il va recouvrir une belle tasse pour jouer au hockey, fait que c'est sûr que c'est pas ça. Il est arrivé de quoi avec l'équipe? Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire, je sais pas ce qui se passe dans l'organisation, mais il y a de quoi pour que Bezer, genre, soit désintéressé à jouer au hockey comme ça, que le capitaine veut le quitter. Il y a de quoi qui se passe. Puis Borvat, c'est l'exemple parfait, comme tu as dit. Le gars, ça a l'air d'un fucking bon gars. Le gars, c'est un leader, puis c'est un très bon joueur de. Tu sais, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est un des meilleurs joueurs two-way de la ligue. Le gars est allé à la meilleure équipe de hockey, il est allé avec les Knights de London. Fait que, tu sais qu'un gars qui sort de là, normalement,
il est bien formé. Là.
C'est un joueur pro. Fait que, moi, sérieusement, je donnerais beaucoup pour Bo Horvat. À être un DG, là, je serais prêt à donner beaucoup, mais un sign and trade. Il faut que le gars soit signé pour que je le. Ça se pourrait se faire. Mais je ne sais pas quelle équipe a de la place, quelle équipe est prête à le faire, parce que ça va coûter un 8-9 millions par année.
Là. Puis là, je veux y aller avec un fait anecdotique. Là. Quand j'ai regardé les équipes soi-disant intéressées à Bo Horvat, ma foi, c'est la Ligue au complet. Fait que, il y a comme pas vraiment.
Il y a des équipes qui ne pourront pas le payer, mais ils peuvent être intéressés pareil. Je sais pas, je pense que c'est un Canadien, Bo Horvat. Probablement, oui, s'il jouait à London. Mais peut-être que, je ne sais pas, les Maple Leafs. Je ne sais pas si peut-être qu'il vient de la banlieue de Toronto. Je ne sais pas, des fois, ces gars-là, ça veut jouer pour une équipe. Peut-être avec les Sénateurs, je ne sais pas. C'est un Canadien, peut-être qu'il aimerait ça jouer au Canada. J'en ai aucune idée d'où il vient. J'en sais ça comme ça. Là.
OK, mais sans nécessairement dire, là, toi, tu pars dans l'optique qu'il est agent libre. Mais si, mettons, on fait un sign and trade, là, c'est une équipe qui va vraiment le vouloir, qui va faire ce genre de move-là. Fait qu'à ce moment-là, il n'y aura pas nécessairement à choisir sa ville.
Non, c'est ça. Si c'est un sign and trade, mais moi, je parlais peut-être d'un, tu sais, mettons, à date limite transaction, les Maple Leafs, pour un push en série, vont aller chercher un joueur comme joueur de location puis leur laisser partir après. Là. On ne sait pas. Je lançais ça de même.
Pour ton information, il est originaire de London, en Ontario. Donc, ça aurait du sens qu'il aille en Ontario. Tu sais, peut-être. London, c'est plus proche de Toronto ou d'Ottawa, ça?
C'est proche de Toronto.
Encore les hosties de livres, toi.
Mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucune rumeur à rien. Mais je me dis peut-être que les Maple Leafs seraient. Peut-être que lui serait intéressé par un bout de chemin avec les Maple Leafs, après ça, signer avec une autre équipe après. Tu sais, mettons, il gagnerait la Coupe Stanley avec une équipe. Là. Peut-être qu'il serait prêt à aller chercher avec une équipe qui est moins bonne, mais pour signer son argent, mais peut-être qu'il aurait déjà sa Coupe Stanley déjà. Il y a de voir à la limite de transaction.
Surtout qu'à 27 ans, le gars, il est pas en sa fin de carrière. Fait que, il peut aider une organisation directe là tout de suite, puis en long terme. Là.
Un autre joueur, les Canucks seraient prêts à changer deux joueurs dans leur prime, je comprends pas.
Pour Bélier. Mais il y a des moves comme ça, des fois, que j'ai de la misère, moi aussi, à saisir. Tu sais, les Hawks de Chicago l'année passée avec DeBrincat puis Kirby Doc, pour moi, il n'y a aucun des deux projets qui était fini. Là.
Ben non, absolument pas. Puis regarde, on voit cette année. Là. Kirby Doc a une très bonne saison, puis il y a un potentiel énorme. Puis je te même te parler de Dominique Kubalik aussi,
qui ont laissé partir. J'avais oublié, t'as raison.
Il est un des meilleurs joueurs des Red Wings cette année. Fait qu'il y aurait trois joueurs dans leur équipe, trois jeunes joueurs qui auraient pu faire partie de la construction, qui auraient changé. Puis là, ils se retrouvent avec des joueurs comme Max Domi dans leur reconstruction. Andreas Antanasio, tu sais, what the fuck.
Ouais, puis Max Domi, étonnamment, encore des rumeurs d'échange. Il semblerait qu'il ne restera pas là. Fait que,
bref, ben, il a signé un an, c'est sûr que c'était pas pour rester à Chicago, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Ouais.
Puis là, ben, ça m'amène au bon move que les Canucks ont fait, mais que là, je suis en train de me dire, je ne sais pas s'ils vont servir à de quoi. On a parlé brièvement de Kuzmenko en début de show. Kuzmenko, lui, ça arrive de la KHL. Il y a plusieurs équipes qui veulent l'avoir. C'est un joueur à caractère offensif, puis il s'adapte bien. Est-ce qu'on peut partir avec, exemple, Elias Pettersson qui est signé pour longtemps, Quinn Hughes, puis des gars comme Kuzmenko?
Ben oui, c'est sûr qu'on peut bâtir. Si on veut voir le positif, c'est sûr que ça, cette année, Pettersson a une très bonne saison aussi cette année. Quinn Hughes aussi, c'est un excellent défenseur. Tu as ton défenseur numéro 1, tu as Thatcher Demko qui est un excellent gardien numéro 1, puis tu as Elias Pettersson qui est un excellent ailier, un des meilleurs alliés de la Ligue. Et là, tu rajoutes Kuzmenko. Mais Kuzmenko, c'est pas un joueur superstar. C'est un joueur qui va peut-être faire 55 points par année, mais je pense pas que c'est. Tu peux te fier sur ce gars-là pour te bâtir ton équipe. Mais je le connais pas encore assez, puis je pense qu'il n'a pas encore joué assez de hockey dans la Ligue nord-américaine. En Amérique du Nord pour le dire qu'est-ce qu'il va devenir comme joueur. Mais pour l'instant, ça pourrait peut-être devenir un Artemi Panarin. Tu sais, Panarin est arrivé comme ça à 25 ans. Il arrive, il s'installe, il commence à bien jouer. Sauf que, par contre, si Bo Horvat et Brock Besser partent, je trouve ça un peu plate.
Je comprends que tu trouves ça plate, mais on va essayer de voir un peu le positif aussi. On a fait l'acquisition d'un joueur, je pense que ce n'est pas l'année passée ou l'autre d'avant, de JT Miller, qui franchement, on avait été le chercher pour changer le visage de l'avantage numérique et ça a marché. On a passé d'un des pires à quand même un bon. Il a connu une saison exceptionnelle l'année passée, ça en est quasiment ridicule. JT Miller, il est là, il est encore là, puis j'ai pas entendu de rumeur comme quoi il partirait. Fait que...
Est-ce qu'il y a un contrat long terme?
Il me semble que oui, mais je peux te confirmer le tout.
Parce que s'il y a un contrat long terme, c'est sûr que là, tu es avec JT Miller, tu as Elias Pettersson, tu as Kuzmenko, puis veux pas, tu vas avoir des retours d'échange avec Horvat et Bell.
Ah, ben oui.
Puis j'ai pas checké le prospect pool des Canucks non plus, mais il doit y avoir des jeunes joueurs qui doivent arriver dans pas long, j'imagine aussi. Là.
J'ai pas regardé la depth chart, moi non plus.
Moi non plus, mais...
Seigneur, JT Miller, 8 ans.
OK, c'est ça. Ben, c'est 8 ans à genre 8, 9, certains, genre.
8 millions. Ouais, mais, parce que... j'attends, là, je me rétracte. Il finit une année, là, je pense qu'il finit un premier contrat à 5,2.
Oui, oui, c'est ça.
Puis après ça, il y a son 8 millions qui embarque, là.
C'est ça. Parce que JT Miller, il était dans la rumeur avec les Blue Jackets aussi, parce que c'est un gars qui vient de l'Ohio. Fait que... Okay. Il y avait des rumeurs, c'est-à-dire qu'un gars vient de l'Ohio, c'est sûr que les Columbus sont intéressés. Mais finalement, il avait signé un long terme avec les Canucks. Fait que t'as JT Miller, t'as Elias Pettersson, t'as Quinn Hughes, t'as Thatcher Demko, puis t'as Kuzmenko. T'as 5 joueurs quand même élites, potentiellement élites dans ton équipe, plus la transaction, je sais pas. Ils sont peut-être capables d'aller chercher un jeune joueur pour la transaction d'Horvat. Ils sont peut-être capables d'aller chercher un Young Guns dans une équipe qui tarde à éclore. Fait que, mais encore là, ça reste des spéculations. Il n'y a rien de concret. Là.
Parce que tu sais, le point qu'on nous ramène souvent, là, c'est surtout une transaction Bo Horvat. On peut se rappeler Ryan O'Reilly. Puis je pense qu'aujourd'hui, les Sabres sont contents d'avoir Tage Thompson. T'sais. Fait que ça se peut que ça soit pas quelque chose. Ça se peut que ce soit pas quelque chose à court terme, mais à très long terme, ça peut te rapporter vraiment beaucoup d'échanger un joueur qui est dans son prime, qui a du leadership. À court terme, ça te fait de la peine. À long terme, ça peut rapporter.
Tu parles du propriétaire de Blue Jackets, Tage Thompson. Ben, il a 5 buts la semaine passée contre les Blue Jackets. Ça fait que sur Wikipédia, il est écrit que c'est lui le owner.
Oh, Jackets. Seigneur, OK, j'avais pas vu ça. Mais mettons, abstraction en fait, là, il a connu une game exceptionnelle contre les Blue Jackets, mais il reste qu'il y a eu une excellente saison. Lui, il a comme explosé d'une shot. Là.
L'année passée, ça a commencé. Ouais. Puis moi, je suis sceptique qu'il la refasse. Et... Il ne le m'alarmait d'un dent pas mal. Ouais, mais je l'avais pris dans mon pot, fait que je suis correct.
T'as fait un bon move. Moi, je t'avoue que je ne l'avais pas tant vu venir.
Mais on a parlé des jeunes. Vasily Podkolzin, joueur des Canucks. Lui, là, il a été repêché top 10. C'est dans le top 10 qui a été repêché. Puis moi, j'avais beaucoup d'expectations, mais il manque. On dirait qu'il ne donne pas de temps de glace à ce gars-là. Puis avec Kuzmenko, ça pourrait marcher deux Russes. Quand la magie russe marche en deux joueurs, ça peut faire. Ça peut faire...
Il joue avec Melikiev?
Mekiev. Un autre joueur qui a un gros contrat à long terme, qui est un excellent joueur, Ilya Mikheyev, qui est avec les Leafs l'année passée. Ouais. Mais les Canucks, c'est pas si pire que ça quand même. C'est juste que si maintenant Brock Besser, ça serait juste Brock Besser, ce serait pas grave, mais là, c'est Bo Horvat qui fait son numéro 1, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Mais sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir parce que là, le DG, c'est un Suédois, je pense. Souvent, les DG suédois essayent d'aller chercher des petites bébites en Suède, en Finlande, qui n'ont pas réussi à venir dans les NH, mais qui pourraient peut-être éclore. Fait qu'on ne sait pas, peut-être que ça va être un joueur comme ça qui va venir avec les Canucks prochainement, dans les prochaines années, j'en ai aucune idée.
Est-ce qu'on va s'essayer avec Jesse Puljujärvi qui est juste dans le cours à côté?
Ah, lui, non. Je pense pas que lui, non. Lui, je pense que c'est fini. quand Jarmo Kekalainen a passé par-dessus au draft de la Ligue nationale, j'ai fait « il y a un problème avec ce gars-là ». Et puis, effectivement, il y avait quelque chose.
Il y a de quoi qui ne débloque pas avec ce gars-là. Il donne des chances. Puis mon Dieu, que ça ne marche pas.
Dans le temps du Chauvet Junior avec la Finlande, c'était Sébastien Aho, Puljujärvi puis Patrick Laine, les trois joueurs, ils ont gagné le championnat du monde avec ça. Les trois joueurs étaient excellents. Puljujärvi marchait. C'est le seul joueur qui n'a pas réussi à faire de quoi dans le national. Aho, c'est un des meilleurs joueurs. Laine, un des meilleurs francs-tireurs. Mais lui, c'est lui qui a les meilleurs coéquipiers. Il a joué avec Drysdale et McDavid. Puis ça n'a pas marché. Fait que je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent prendre une chance dessus, mais faut pas que ça coûte cher comme. Tu sais, le Canadien pourrait l'essayer, lui. Parce que les Canadiens n'ont rien à perdre. Puis c'est un gros bonhomme. Puis il y a peut-être encore un potentiel. Mais il ne faut pas qu'une équipe coûte cher pour ça.
Non, 100% d'accord avec toi. Tu sais, le gars, il a littéralement joué parmi les meilleurs attaquants de la LNH. Il y avait une porte tout grande ouverte pour aller à l'aile de ces deux gars-là.
Ah oui.
Ça ne marche pas. Fait que, bref, il se ramasse en Suède, puis il ne jouera pas dans la LNH. Puis, bon, en tout cas, éventuellement, c'est un gars qui assurément va bouger, mais il en reste pas moins que c'est un échec. Du côté des Canucks, ben là, moi, je pense que le point d'interrogation a toujours été la défensive et je ne vois pas énormément l'avenir au niveau de la défensive.
Ben c'est ça, j'étais en train de regarder là, s'il y avait des espoirs qui s'en venaient à la défensive. Il y a un autre Elias Pettersson d'ailleurs qui ont repêché les Canucks. Un autre Elias Pettersson. C'est un défenseur celui-là, je pense.
Ils veulent refaire la lignée des Sedin, mais avec les Pettersson.
Ouais, c'est ça. Mais dans les noms que je vois, là, c'est sûr que je ne connais pas les jeunes tout par cœur, mais je ne vois pas de défenseur élite arriver. Comme ça. Mais ils ont Jonathan Lekirimaki qui ont repêché l'année passée en première ronde, qui est un attaquant qui, lui, pourrait remplacer Brock Besser parce que c'est un franc-tireur. Fait que peut-être qu'ils sont prêts à échanger Brock Besser parce qu'ils savent qu'il y en a un qui s'en vient en arrière, mais ça reste que c'est dur à remplacer. Pourquoi remplacer un gars que tu es déjà par un autre? Je trouve ça un peu bizarre.
Ben, c'est parce que Emmanuel, t'as peut-être juste un surnom, mais en termes de style de joueur. Fait que là, tu te dis, t'en as trop. Fait qu'il y en a un qui passe, celui qui a le plus de valeur, c'est lui qu'on se
déteste. Puis lui, qui coûte le moins cher aussi. T'sais, on s'en a d'autres avoir un contrat recrue, d'autres un contrat de 6,6.
Ouais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, d'après moi, c'est surtout ça, là, parce que ça a l'air de bien se passer avec Mikheyev. Ça a l'air de bien se. Comment?
Ilya Mikheyev.
Mikheyev puis Kuznetsov, les deux, ça a l'air de bien se passer. Fait que, si ça va bien avec Elias Pettersson, ces deux-là, ben garde, d'après moi, tu peux te permettre de ne pas avoir. Anyways, Bo Horvat ne sera plus là, tu n'as pas besoin.
Mais Pettersson, c'est un centre, right?
Ouais.
Fait que c'est lui qui va devenir centre numéro 1. Fait que Elias Pettersson comme centre numéro 1, c'est pas mauvais. Mais ça va te prendre. Tu sais, c'est sûr qu'avec un 1-2 punch, Horvat, Pettersson, tu étais en business. Sauf que, tu sais, Vancouver, comme je dis, c'est une vraiment une belle ville pour jouer au hockey. C'est une très belle ville tout court, là, mais je veux dire, c'est beau. Les fans de hockey sont passionnés. Fait que, eux autres, ils ont un léger avantage que genre c'est hockey town un peu. Fait que ça peut aider les Canucks, les agents libres, mais est-ce que ça va refroidir les agents libres que deux joueurs élites veulent partir aussi? T'sais, Bruce Boudreau, je pense pas qu'il attire les joueurs.
Non, en effet. Puis ça, les moves de coach, là. Travis Green n'était pas la crème de la crème.
Non.
Bruce Boudreau, ça a bien commencé. Il y a eu comme un moment de charme au début, mais après
Bruce,
ça.
Bruce, there it is. Il chante ça. Puis il y avait eu John Tortorella avant, je ne sais pas si tu te rappelles. Fait ça que Tortorella, Travis Green, Bruce Boudreau, je pense qu'il serait temps qu'il aille avec un jeune. un jeune entraîneur, là, un peu comme un Sheldon Keefe ou le nouveau coach des Red Wings. Lui, il était avec les Lightning, je ne me rappelle plus de son nom. Il me semble que c'est un nom francophone, c'est bizarre, mais en tout cas. Un jeune entraîneur, peut-être même un entraîneur adjoint qui est dans la ligue à quelque part, mais pas un entraîneur qui a des problèmes avec des joueurs comme Bruce Boudreau ou John Tortorella. Qu'on sait que oui, il y a des joueurs qui l'aiment, mais il y a beaucoup de joueurs qui détestent aussi. T'sais, vas-y avec un gars qui va emmener de quoi de nouveau, parce que là, c'est une nouvelle Ligue nationale, les joueurs ne sont pas traités comme avant. T'sais, on n'est pas en 1995 non plus.
Oui, ça me fait penser à Darryl Sutter, ça là.
Lui, c'est encore un miracle qu'il soit encore là.
Tu sais, les rumeurs qu'il y avait quelque chose entre Darryl Sutter et Johnny Gaudreau, qu'il y avait quelque chose entre Darryl Sutter et Jacob Markstrom, peut-être qu'il y a eu quelque chose avec Johnny Huberdeau. Fait que là, c'est quand même.
Il y a déjà eu quelque chose, oui.
C'est tu sais, l'histoire d'aller aux toilettes, puis bref. Donc, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que le gars, en quelque part, c'est de la vieille école de hockey, puis. Je sais pas, on a l'air de vouloir croire en ça.
Le propriétaire des Canucks est très chanceux que Jonathan Huberdeau ait signé son contrat avant que la saison commence. Parce que je suis pas sûr qu'il reste temps avec les Flames après ce qui s'est passé cette année.
En effet, je pense que Huberdeau, il a comme voulu signer son gros contrat de carrière, genre, puis il a dit, OK, on y va all-in pour ça, mais il a pas attendu de voir de quoi ça avait de l'air.
Mais ça fait pas le coach va prendre la porte. Darryl Sutter, on s'entend qu'il ne reste pas 10 ans. Fait que,
ah, j'espère, non. Mon Dieu.
Surtout que les fêtes ne sont pas tant bien. Fait que, moi, je pense que c'est plutôt que tard qu'il va avoir un nouveau coach. Là.
Mais disons que pour Johnny Gaudreau, mon Dieu, pour Johnny Huberdeau, c'est un joueur légendaire pour l'organisation des Panthers de la Floride. Puis là, qui joue sa troisième ou quatrième, je me rappelle plus tant.
Il n'y a rien qui va cette année. Il y a moins de temps de glace. Le gars, s'il est moins à l'aise aussi, ça paraît. Là.
En effet. Mais tu sais, à quel point est-ce que ça doit être humiliant pour lui? Là? C'est un joueur qui a toujours été sa première ligne, le power play et tout ça.
Cherche Alexander Barkov, je pense.
Ouais. Puis même, je regardais Kadri, puis je sais pas, c'était pas le Kadri que j'avais vu avec l'Avalanche. Ça me tapait moins à l'œil.
Kadri, moi, c'est pour ça que je voulais. Il y avait beaucoup de rumeurs avec des équipes, puis je me dis, tu sais, Kadri, il va signer un gros contrat, mais il va être overpaid parce que le gars jouait avec une équipe comme l'Avalanche. Tu joues sur power play avec McKinnon puis Rantanen. C'est sûr, ça aide plus que faire des points. C'est un bon joueur, mais c'est pas un centre numéro 1 selon moi. C'est un centre numéro 2.
Non, c'est ça. Puis je pense pas que c'était le but non plus qu'il soit le centre numéro 1. Mais il en reste pas moins qu'à la fin de la journée, on s'attendait à un gars qui pouvait te faire peut-être un plus gros impact offensivement que ça.
Mais les Flames ont dépensé beaucoup, puis ça rapporte pas là, présentement. C'est vraiment pas. Puis c'est signé long terme, c'est 8 ans, je pense, les deux.
Ouais. Alors là, on va s'en aller du côté des Sénateurs d'Ottawa. Parce que c'est pas la meilleure des saisons pour l'instant des Sénateurs, mais bon.
Ça va mieux.
Ça va beaucoup mieux.
OK, c'est bon. Comment ça va, Phil? Comment ça va?
Ah, ça va super bien, vous autres.
Yes, sir, ça va bien, mon cher. Alors, des petites nouvelles des Sénateurs d'Ottawa dernièrement. Vas-y donc, ça va mieux.
6-2-1 dans nos 9 derniers matchs. Fait clairement, ça va mieux. Exactement. On a eu des bonnes performances de Cam Talbot, mais... Les blessures font mal un peu. T'sais, on a Tim Stützle, Josh Norris, Artem Zub. Mais en ce moment, on se débrouille bien quand même. Depuis le 23 novembre, meilleur powerplay de la Ligue. Une autre chose qui fonctionne très bien.
Ooh.
Puis en ce moment, on mène 3-0 contre Montréal après deux périodes. On sent bien. On est bien.
Je tiens à préciser, c'est en rediffusion parce que ça va être diffusé jeudi.
Exactement. Ouais.
On ne sait pas encore qui va gagner aujourd'hui. OK. Puis sinon, moi, il y a un petit quelque chose que je voulais t'entendre parce que les rumeurs vont de bon train concernant Eric Carlson. Il semblerait que les Sens peut-être pourraient être intéressés. T'en penses quoi?
Moi, je pense que ça ne va vraiment pas arriver. Je pense qu'il n'y a aucune chance. Premièrement, que je pense que les rumeurs n'étaient pas fondées vraiment. Il n'y avait pas de source vraiment. Je pense que c'est juste du monde sur Twitter qui avait du fun avec ça. Puis qui se disait, s'ils veulent changer Eric Carlson, c'est sûr que les Sens vont le vouloir. Puis lui, il va vouloir venir. Mais ça ne marchera pas avec l'argent. Puis tout ça. Puis je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive. Malgré qu'un retour de Carlson, ça serait quand même. Ça serait nice. Là. Ça serait cool. Là, voir jouer avec Chabot, là, Sanderson, ça serait fou. Là.
En tant que fan, t'aimerais ça, maintenant?
C'est sûr que oui. Ouais.
OK, ouais, c'est bon. Monétairement, ça ne marchera pas pis tout, là, parce que c'est trop long et tout, mais ça reste que j'aimerais ça l'avoir, moi, tout Carson.
Ouais.
tout le monde était là, il était beau, il avait sa petite flow, il patinait, non, ouais. Full bien, puis on dirait qu'avec les gens, ça allait tout défait.
c'est ça, c'est incroyable, mais on dirait qu'il est revenu dans son prime, justement, mais il est encore 11,5 millions. C'est encore cher.
C'est un fait. Puis moi, je l'ai regardé jouer hier parce que, ben avant-hier, en tout cas, peu importe, j'ai regardé jouer contre les Coyotes. Puis son coup de patin il est fluide, sa vision est encore très bonne, le gars. Une chose aussi que je tiens à apporter, c'est que Eric Karlsson, niveau média, est un gars qui était très apprécié. C'est un gars qui a, qui a de l'humour, il a une proximité.
Exactement.
Si l'organisation des Sens veut enlever peut-être un peu de visibilité à un gars comme Tkachuk, Karlsson, that's the man, man. Ça serait parfait comme genre de move. Là. Puis j'aimerais ça t'entendre aussi concernant possiblement l'achat des Sénateurs. La LNH, semble-t-il, aimerait beaucoup que ce soit un certain Reynolds qui achète les Sénateurs. C'est un coup de publicité, on va se le dire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant?
C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être intéressant. En fait, la LNH a dit à Ryan Reynolds, n'importe qui serait intéressé à acheter les Sens, ils leur ont dit « il faut que Ryan Reynolds fasse partie de ton équipe qui va les acheter, sinon on ne va pas vous laisser. » Ça serait très bon pour le marketing. Ça serait
ont-tu vraiment dit ça?
Il faut que Ryan Reynolds en fasse partie. Fait que c'est ça qu'on assume. T'sais. C'est ça.
OK.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ça serait bon pour le marketing. Ça serait bon parce que Ryan Reynolds a déjà une équipe de soccer. Welsh, je sais pas exactement comment prononcer le nom. Puis en fait, il a fait une série sur Disney Plus qui va sortir bientôt pour montrer c'est comment être le propriétaire d'une équipe professionnelle de sport. Fait que les Sadler qui voudraient refaire un peu la même chose avec les Sens, ce que je trouve qui est un projet quand même très excitant. Ça serait malade. Il veut vraiment montrer aux fans c'est quoi, tu sais, en arrière tout ce qui se passe derrière être propriétaire d'une équipe.
Mais c'est pour ça que la Ligue nationale veut, parce que dans son documentaire, ils vont parler de la NHL gratis.
Exactement. Ça amène des fans, ça amène beaucoup de visibilité. On s'entend que c'est un gars assez populaire.
Ouais, il va amener des amis aussi aux sénateurs qui vont poster des affaires sur les réseaux sociaux. Puis, ça va être du monde d'Hollywood. Regardez ça, ce ne sera pas du monde de Québec. Oui, ils viennent avoir, mais.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, des États-Unis qui vont regarder les sénateurs, puis il y en a qui ne savent peut-être même pas c'est qui le sénateur d'Ottawa. Ça va y mettre sur la map, c'est sûr, les sénateurs.
Oui, ça serait une super bonne chose.
Puis moi, honnêtement, là, ce que je vois là-dedans, là, c'est que tu m'as parlé de Disney Channel, donc c'est huge comme visibilité. Puis d'avoir un gars comme Reynolds et sa femme, Blake Lively, qui sont deux personnes très populaires, ça ferait des Kodak. Puis comme il dit, Sam, tu as des invités des fois de marques qui vont venir. Tu as peut-être Drake au niveau de Toronto, mais tu as quand même Deadpool du côté d'Ottawa.
C'est pas tous les jours que tu as Deadpool qui veut acheter ton équipe. C'est une bonne opportunité, là.
Là, il a forcé un peu la note, mais il reste pas moins qu'il va avoir fini par réussir son pari d'obtenir un Sugar Daddy ou une Sugar Mammy. Parce que il sera pas l'actionnaire majoritaire au final. Là.
Non, c'est impossible. C'est impossible d'y acheter l'équipe. Ça, il l'a dit direct. Je pense que c'était sur Jimmy Fallon. En tout cas, il s'est pas caché. Il a dit « J'ai besoin d'un Sugar Mammy, d'un Sugar Daddy, d'un Sugar Mammy. J'ai pas le choix. Je peux pas l'acheter de ça. Faut pas vous le cacher. »
C'est rare qu'il y ait une personne, à moins qu'il soit vraiment multimillionnaire là, ou milliardaire, qui peuvent acheter une équipe. Des clubs.
C'est très
rare. Il n'y a plus grand club qui se vendent. Les Broncos de Denver sont vendus, c'est sûr qu'ils ont vendu 4,5 milliards, mais ils sont genre 25, puis Lewis Hamilton est là-dedans. Là. Les sénateurs, c'est sûr que c'est moins cher, mais ça reste que Ryan Reynolds fait de l'argent, mais c'est de l'argent pareil, un club de hockey. Là.
Mais c'est clair. Ils sont pas en peine, les sénateurs. Là. Je me rappelle plus des noms, là, mais je me rappelle qu'il y avait des hommes d'affaires qui étaient des groupes d'hommes d'affaires qui étaient intéressés. Puis cette équipe-là, en plus, là, ils disaient que les filles de Melnick voulaient absolument mettre la clause de « elle ne peut pas s'en aller, puis il faut qu'il y ait un aréna sur les plaines de
Bretagne. » Oui, puis ça, c'est une très bonne chose. Puis en ce moment, ça devient sérieux, justement. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, puis tout ça. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de noms qui se font, qui circulent. Puis je pense que... C'est ça, ils ont ouvert le data room des Sens pour qu'ils puissent comme analyser les données de l'équipe et tout ça. Ils vont les ouvrir bientôt pour tous ces gens qui sont intéressés là. Fait que tout le monde commence à se rapprocher, tout le monde commence à avoir plus d'informations. Ça devient sérieux, ça devient quand même très intéressant.
Mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a le projet des Plaines-le-Breton, une nouvelle aréna. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre de l'ambiance autour. Puis tu as l'équipe des sénateurs qui... Des Josh Norris, des Tim Stutzel, Dirk Batterson, les Brady Tkachuk, Thomas Chabot, l'équipe s'en vient dans son prime. Fait que tu t'achètes pas une équipe qui va être des bas-fonds pendant 8 ans, tu vas être
dans exactement.
Tu vas être dans le 4. Là.
C'est sûr que tu vas faire de l'argent. Je pense que la vente de billets de saison a monté de 40% cette saison, 60%. Je pense que c'était autour de ça. Ça a augmenté beaucoup, beaucoup cette saison. J'imagine à cause des acquisitions de cet été. Puis.
Ouais, c'est ça. Alex de Brinkat, j'ai même pas nommé.
C'est ça. Puis veut pas, le fait que Melnyk soit plus le propriétaire de l'équipe, il y a du monde qui recommence à venir pour cette raison-là. Ben, c'est pas tout le monde, mais il y en a que c'était ça leur mentalité. Ils ne voulaient pas venir aux Sens en autant que Melnyk avait l'équipe. Maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'on commence à aller sur une pente montante, c'est ça qui arrive. Les fans augmentent, les revenus augmentent.
Est-ce qu'Alfredson est dans l'équipe?
Non, mais il parle beaucoup de revenir jouer un rôle. Puis justement, dans le premier match de la saison à la maison, il a sorti nulle part. Puis on ne savait pas trop pourquoi. Il est juste sorti juste avant l'hymne national. Puis c'était un moment magique. Fait que tu sais, il est proche de l'équipe. Il a une bonne relation avec l'équipe. Je m'attends à ce qu'il revienne jouer un rôle.
Faut qu'il soit genre président des opérations hockey, quelque chose. Pas le choix.
Ouais, ça serait hot. On a besoin de le revoir.
Puis sinon, j'aimerais ça t'entendre parler un peu. Parce que dans le cas de Tim Stützle, il me semble qu'il était blessé. Mais c'est pas grave finalement, ça se peut-tu?
On a eu peur. J'étais là lundi contre les Ducks, puis on l'a vu un peu se pogner contre la bande, tomber dans la bande. Il restait à terre un peu. Il a commencé à se tenir, puis il est couru. C'était pareil que Josh Norris au début de la saison. C'était une situation identique de comment il est parti à courir. Pareil que Shane Pinto l'année passée, qui était blessé pour toute la saison. Fait qu'on a eu peur. Puis là, ils ont dit que c'était une contusion. Tu sais, c'est rien de structure dans son épaule. Fait que c'est une très bonne nouvelle. C'est au moins une semaine. Il va être réévalué, mais on avait peur que ça soit le reste de la saison. Fait on a évité une autre grosse blessure majeure.
Il est parti un peu en panique, mais c'est ça que j'ai entendu aujourd'hui, comme quoi c'était pas grave. Puis ça, c'est quelque chose qui est très positif pour eux autres. Alors bref, qu'est-ce qu'on peut s'attendre là, des Sénateurs pour, disons, la prochaine semaine-ish?
C'est dur à dire, justement, parce qu'on vient de perdre un autre gars comme Tim Stützle. Quand tu y penses, c'est Norris et Stützle, c'est Zub qui nous manque. Fait que l'équipe, tu sais, il y a des gars comme Jake Lucchini, Rook Chartier, je suis pas mal sûr que vous avez jamais entendu ces noms-là. Exactement. Ils sont en train de jouer dans LNH en ce moment. Ils sont sur nos deux troisième lignes. Puis quand tu regardais notre troisième ligne cet été, c'était Tyler Mott, Shane Pinto, Mathieu Joseph. Maintenant, c'est les deux gars que je viens de te nommer avec un Dylan Gambrell. C'est fou comment la profondeur de l'équipe, à cause de ces blessures-là, a été vraiment affectée, pas d'une bonne façon. Mais je pense que dans la prochaine semaine, on joue des équipes comme les Red Wings et tout ça. Je pense qu'on peut finir sur une note positive avant Noël. On va voir ce qui arrive après. Les Blues étaient derniers dans la Ligue en 2019 à Noël, puis ils ont gagné la Coupe. C'est ce que j'ai à dire.
OK, c'est
tout
bon.
Tout est possible.
J'ai déjà vu jouer Rook Chartier à Coupe Memorial à Québec en 2015. Il jouait avec Laurent Brindle.
C'était quand même un joueur dominant. C'était ça un joueur, il était comment?
C'était un joueur de points par match. C'était un excellent joueur d'or. Il avait été repêché quand même assez haut en plus.
Oui, ben c'est ça. Il avait une super bonne saison à Belleville en ce moment. Fait que quand on s'est demandé qui montait à cause des blessures, c'était le premier nom qu'on a vu.
Regardez la première période, tantôt, il a donné 4 mises en échec sur le même chiffre.
Ouais, ça se peut. C'est souvent de même. Les jeunes joueurs qui viennent d'arriver dans NHL, ils veulent faire leur place, ils vont frapper tout ce qui bouge tout le temps.
OK, ben écoute, un grand merci parce que c'est à peu près le seul temps qu'on avait. Un grand merci pour ce qui est des nouvelles des Sénateurs d'Ottawa. Puis je te souhaite que ça aille un peu mieux au niveau de l'infirmerie parce que franchement, c'est pas de perdre un paquet de joueurs comme ça.
On dirait que c'est une malédiction des fois, là. Surtout les centres puis leurs épaules. Dans les deux dernières années, c'est Colin White, Shane Pinto, Josh Norris, Tim Stützle. C'est nos quatre centres à leurs épaules.
Ça fait mal. Puis si je fais une malédiction. T'en as deux qui étaient à des mises au jeu, right?
Shane Pinto, dans le fond, il s'est fait frapper sa bande. Il est allé, les Sens, ils ont comme dit qu'il pouvait revenir, ce qui était une grosse erreur parce qu'il a pris une mise au jeu, puis il est retourné, puis il n'est pas revenu du reste de la saison. Fait que je ne sais pas comment tu passes à tu peux finir le match à tu ne peux plus jouer de la saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Puis Josh Norris, lui, c'est un match contre les Coyotes qu'on mène, je pense, 6-2. Il prend une mise au jeu, tombe à terre, saison finie. C'est incroyable comme malchance.
Mais il a recommencé à patiner, par exemple, la semaine passée, je pense. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas prendre de contact, rien. Mais moi, je pense qu'il va revenir cette année, par exemple.
J'espère beaucoup. Mais est-ce qu'on le ramène si on ne joue pas des matchs compétitifs à la fin de la saison? Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que ça va dépendre un peu de ça aussi. De quoi, ça?
Moi, pour mon rôle, il pourra venir.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est parce que tu essaies de le préserver, tu le veux à long terme, parce que tu ne veux pas empirer sa blessure. Fait.
Puis c'est la deuxième à l'épaule. L'année passée, c'était un autre. Là, c'est comme pas à la même place, mais c'est la même épaule. C'est inquiétant. T'sais. C'était quand même notre premier centre. C'est un franc-tireur. On a besoin de ses épaules.
En effet. All right. Ben, écoute, un grand merci, Phil. Puis on se reparle très prochainement. D'ici là, good luck pour les Sens.
Yes. Merci. J'espère que quand vous écoutez ça, les Sens ont gagné. J'espère, très fortement.
C'est sûr. Les Canadiens vont gagner. OK, bye. All right, Sam, ben écoute, c'est à peu près tout le temps qu'on avait. Est-ce que tu as un petit mot de la fin concernant le sujet principal des Canucks? On y va avec la question. Est-ce qu'on peut mentionner que les Canucks ont une reconstruction qui est un échec?
Malheureusement, oui. Pour que ça se passe bien, puis qu'il y ait un joueur qui tombe du ciel, puis qu'ils deviennent. Ah! C'est peut-être qu'ils n'auront plus de joueurs à donner, mais qui sont bons.
Moi, ça va être non. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans une deuxième reconstruction. Fait que, on a comme une deuxième vague de jeunes, puis on les a énumérés tantôt. Tu en as plusieurs qui sont là à long terme, puis c'est des joueurs, je pense, que tu peux te bâtir dessus. Certes, la génération que je pourrais affilier à Bo Horvat est peut-être un échec, mais d'après moi, on a de l'espoir. Mais bout de vierge, des défenseurs défensifs.
Mais pour terminer, peut-être que les Canucks pourraient finir vraiment bas dans le repêchage pour avoir un méchant bon choix, puis de repêcher un défenseur. Ça serait peut-être la...
Ça serait une idée, genre top 5, là?
Ben, il y a des défenseurs, je pense, dans le top 10. Je pense que les 5 premiers, c'est les attaquants. Fait que tu peux prendre des défenseurs plus tard.
Ah, ben OK. Ben écoute, je vous le souhaite bien dans ce cas-là, parti comme c'est parti là. All right, un grand merci, Sam. Puis on se revoit très prochainement, mon cher. Passez une belle soirée. Merci. Alors, pour vous à la maison, je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode-là où on a fait un petit spécial concernant les Canucks de Vancouver, mais aussi la possibilité d'avoir un joueur comme Brock Bowser rejoindre l'organisation du Canadien de Montréal. Est-ce que c'est possible? Tout est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est garanti. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir été là. Je vous rappelle, bien entendu, que cet épisode-là va être disponible en rediffusion en fin de semaine sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Également, d'écouter à tous les mardis midi la notif des sportifs animée par Loric Salvaille. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se revoit très prochainement. Okay.